RCF.
J'ai ressorti de ma bibliothèque, Joël, un vieux bouquin des années 60, intitulé « Une femme dans l'espace » et qui a pour auteur une aviatrice exceptionnelle, Jiri Kobe, qui malheureusement nous a quittés en 2019.
Elle est allée dans l'espace ?
Justement pas. Elle nous raconte qu'en 1960, des médecins américains clairvoyants comme le docteur Lovelace prirent l'initiative de faire subir à un groupe de femmes pilotes d'exception les mêmes tests que ceux auxquels étaient soumis les futurs astronautes du projet Mercure.
Quels étaient ces tests ?
Alors des tests médicaux et psychologiques, bien sûr, mais surtout des épreuves destinées à éprouver la résistance des astronautes confrontés à un vrai vol dans l'espace, comme les tests en centrifugeuse, où le corps humain subit des accélérations qui le font peser plusieurs fois son propre poids.
Comme lors de la rentrée d'une capsule spatiale dans les couches denses de l'atmosphère.
Exactement. Ou encore le mastiff, une machine où l'on est sanglé sur un siège qui pivote simultanément sur trois axes différents, comme ce serait le cas d'une capsule spatiale devenue incontrôlable.
Bonjour, le vertige. Ah, il faut pas faire ça après un petit déjeuner trop copieux.
Ah oui, c'est sûr. Et c'est pour simuler justement le mal de l'espace provoqué par l'appareil labyrinthique de l'oreille interne. On fit subir aux aviatrices le test de l'isolement sensoriel, de la solitude. Il s'agissait de savoir combien de temps un individu peut rester seul avec lui-même, sans stimuli, sans contact, avant d'avoir des hallucinations ou de perdre tout contact avec la réalité. L'Américain Donald Farrell passa ainsi 7 jours dans un caisson minuscule en 1958. Une épreuve particulièrement éprouvante.
Il y a des conseillers aux claustrophobes.
Oui, ça c'est sûr. Une autre épreuve qui se déroulait, elle, dans un caisson, était de reproduire les conditions qui règnent à 11 000 mètres d'altitude. Des candidats et des candidates astronautes subissaient 45 minutes de pré-oxygénation. Ensuite, les astronautes devaient ôter leur masque à oxygène et écrire un texte. Jiri Kobe résista 3 minutes et demie à cette altitude. Or, on considère que 1 minute constitue déjà un excellent résultat. Finalement, le groupe de 13 femmes sélectionnées réussit les tests mieux que leurs homologues astronautes masculins.
Et pourtant, aucune d'entre elles ne fut envoyée dans l'espace.
Non, contrairement à ce qu'espéraient les aviatrices, ces tests étaient purement scientifiques. Et jamais les responsables de la NASA de l'époque, jamais l'administrateur James Webb, n'envisagea sérieusement d'envoyer une Américaine à bord d'une capsule Mercure.
Et ce qui permit aux Soviétiques d'envoyer la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova.
Oui, que j'ai vue d'ailleurs, exactement, Joël. Parmi les 13 femmes qui subirent le supplice des tests, Jiri Kobe sympathisa particulièrement, aussitôt, avec la plus jeune d'entre elles, Marie Wallace Funk, dite Wally Funk. Elle n'avait que 22 ans, dit-elle. Personne, à l'époque, n'aurait pu supposer qu'on pouvait posséder à cet âge une telle expérience. Mais elle était déjà instructeur de vol à Fort Steele, dans l'Oklahoma. Et elle volait depuis ses études à l'université. De toutes les femmes du groupe Mercury 13, Wally Funk fut celle qui impressionna le plus Jiri Kobe. Mais malgré une demande aux membres du Congrès, et même à l'époque à John Fitzgerald Kennedy lui-même, l'espace américain fut longtemps encore interdit aux femmes.
Et sauf que Wally Funk vient cette année de prendre sa revanche.
Eh oui, Joël. L'étonnant Jeff Bezos, grand admirateur de l'aviatrice, lui proposa de l'accompagner pour un saut de puce jusqu'aux portes du cosmos à quelques 100 km d'altitude. Et il fit de Wally, à 82 ans, 60 ans après le programme Mercury, la plus heureuse des femmes. Aujourd'hui, Pour les amateurs de voyages dans l'espace très fortunés, il existe deux techniques très différentes d'accomplir leurs rêves. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était déjà le cas voici 60 ans.
Comment ça ?
Eh bien, en 1960, on discutait ferme pour savoir si le premier homme à atteindre l'espace serait le pilote de l'avion-fusée X-15 ou bien le passager de la capsule balistique Mercury. Et curieusement, à l'époque, l'avion avait plutôt la préférence des experts.
Et pourquoi ?
Parce qu'il restait un véhicule piloté, suspendu au départ sous l'aile gauche d'un bombardier octoréacteur B-52, l'avion-fusée X-15 d'une masse d'une quinzaine de tonnes était largué à l'altitude d'environ 15 000 mètres et allumait alors son moteur-fusée, lequel le propulsait vers la haute atmosphère à presque 100 km d'altitude. L'appareil revenait ensuite, au terme d'un long vol plané, se poser sur un lac asséché. Il exigeait d'ailleurs des pilotes très expérimenté.
Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, l'a piloté, je crois.
Oui, à 7 reprises. À l'inverse, les premiers vols de la capsule spatiale Mercury ont été des sauts de puce. La capsule était placée au sommet d'une petite fusée Redstone, missile d'ailleurs directement dérivé des sinistres fusées V2 de la Seconde Guerre mondiale. Ici, pas besoin d'un pilote confirmé. D'ailleurs, les premiers vols ont été effectués avec des mannequins, ou bien avec un singe comme le chimpanzé Ham le 31 janvier 1961.
Et comment se déroulait le vol ?
Alors la fusée fonctionnait environ 2 minutes et demie, puis la capsule se détachait poursuivant son ascension jusqu'à plus de 180 km d'altitude.
Ouais, presque 2 fois plus haut que l'avion fusée X-15.
Oui, 2 vols suborbitaux eurent lieu avec des occupants, Alan Shepard, suivi de Virgil Grissom. Actuellement, nous retrouvons ces deux techniques opposées dans la course au tourisme spatial qui oppose Blue Origin et Virgin Galactic. Jeff Bezos, le patron de la firme Blue Origin, a choisi d'envoyer ses voyageurs à 100 km d'altitude au moyen d'une fusée monoétage, baptisée justement New Shepard, qui utilise l'hydrogène et l'oxygène liquide comme combustible. La cabine, dotée de vastes hublots panoramiques, revient au sol suspendu par 3 parachutes et atterrit non loin du site de lancement au Texas.
Et Richard Branson, lui, préfère la formule de l'avion-fusée.
Oui, le milliardaire britannique mise sur son avion-fusée, propulsé par une fusée plus polluante à combustible solide, le Starship 2, lequel prend son envol suspendu à un remarquable avion porteur bifuselage pour atteindre les 80 km d'altitude.
Alors, à partir de quelle altitude est-on dans l'espace ?
Alors, Joël, c'est parfaitement arbitraire. L'US Air Force considère que 80 km est l'altitude où commence l'espace, mais c'est une question de pure convention. Il est clair que quand on est au-dessus de 98% de l'atmosphère terrestre, sous un ciel parfaitement obscur et constellé d'étoiles, et que l'on commence à distinguer la courbure du globe terrestre, on est en droit d'estimer qu'on est dans les conditions du vol spatial.
Elon Musk, le tourisme spatial ne l'intéresse pas ?
Pas directement, mais un premier vol touristique de 4 astronautes autour de la Terre vient d'avoir lieu, initié et financé par le milliardaire Jared Isaacman, âgé de 38 ans. La mission Inspiration 4 a été la première mission spatiale 100% privée. Elle s'est déroulée à bord d'une capsule Crew Dragon, de la firme SpaceX d'Elon Musk, et le décollage s'est fait depuis le pas de tir de Cap Canaveral. La capsule employée était une capsule déjà utilisée mais modifiée pour l'occasion.
Et pourquoi modifiée ?
Eh bien, la capsule ne rejoignant pas la station internationale, sa pièce d'amarrage située à l'avant est supprimée et remplacée par un dôme transparent, magnifique, qui offre aux voyageurs, à n'en pas douter, une vue imprenable sur la Terre. Le vol s'est déroulé à 530 km, plus haut que l'altitude de l'ISS, et a duré 3 jours.
Alors, Alors après les deux premiers vols des deux rivaux, hein, quel est l'avenir du tourisme spatial ?
Alors restons lucides, hein, la démocratisation des vols dans l'espace n'est pas pour demain. Le tourisme spatial risque de demeurer longtemps encore une attraction foraine pour milliardaires en mal de sensations fortes. L'espace restant en réalité inaccessible pour la très grande majorité des gens. De plus, le tourisme spatial pose de nombreuses questions, notamment environnementales en termes de pollution, mais aussi d'éthique.
Et quand commenceront vraiment les vols touristiques réguliers ?
Alors, en dépit du succès de son premier vol, la société Virgin Galactic de Richard Branson n'est pas encore prête à commencer son activité commerciale. Avant d'y parvenir, l'entreprise doit encore réaliser 2 vols d'essai d'ici la fin de l'année.
Et avec le même appareil ?
Non. Le 30 mars dernier, la société a présenté le SpaceShip 3, qui constitue une nouvelle version de l'appareil, mais pouvant emporter 6 passagers au lieu de 4, est prévu pour une cadence de vol plus élevée.
Et aucune date n'a été donnée pour le début des vols commerciaux.
Non, mais malgré cette incertitude, plus de 600 personnes ont déjà déboursé $250,000 chacune pour s'assurer une place dans l'un des futurs vols, et ce, bien avant le vol réussi de Richard Branson.
On dit même que l'excentrique Elon Musk, le patron de SpaceX, hein, a déjà son billet. Et du côté de Jeff Bezos, le patron de Blue Origin.
Alors ici encore, l'entreprise de Jeff Bezos doit encore réaliser plusieurs vols d'essai avant de prétendre ouvrir à la clientèle des sauts balistiques touristiques dans l'espace. Une offre qui ne devrait pas être proposé avant l'année 2022. Et là encore, les volontaires pour s'envoler à bord de la capsule sont nombreux. Proposé aux enchères, d'ailleurs, une place pour le vol inaugural avait été adjugée $28 millions. Mais les prix vont évidemment baisser.
Et est-ce que d'autres entreprises sont sur les rangs ?
Alors, beaucoup d'entreprises privées ont essayé de se lancer dans la conquête de l'espace, mais beaucoup d'entre elles ont échoué ou abandonné leurs projets. Pourtant, de nouveaux projets voient régulièrement le jour avec parfois des objectifs moins ambitieux, plus modestes. C'est ainsi que l'entreprise française Zefalto travaille sur une sorte de montgolfière capable de s'élever jusque dans la stratosphère à 25 000 ou 30 000 mètres probablement, en emportant ici encore une nacelle permettant de contempler la Terre. Et c'est aussi le cas de la société Space Perspective qui vous envoie à 30 km d'altitude pour la modique somme de $125,000.
Ouais, bah c'est encore une belle somme. Hein. Et les Russes, ont-ils des projets de même genre ?
Alors la Russie, elle aussi, souhaite être présente sur le marché du tourisme spatial, et ce dès 2023, en embarquant à bord d'un Soyouz de nouveaux touristes à destination de la Station Spatiale Internationale. Il est même prévu que l'un d'entre eux fasse une sortie dans l'espace.
Oh, mais ça nécessite un sérieux entraînement, ça.
C'est vrai. Du côté des Américains, la maison de production Space Hero veut même créer une émission de télé-réalité en envoyant des candidats à bord de l'ISS. Je ne sais pas s'il y aura Nabila. Notons toutefois que tous ces projets ne suscitent pas l'adhésion de tout le monde. Des critiques s'élèvent qui fustigent ces manèges de luxe pour gens très riches en quête de sensations. Dans un contexte d'urgence climatique et environnementale et de pandémie, hein, où des modèles de développement plus sobres sont proposés, hein, sont discutés, on peut se demander si ces voyages ne sont pas un peu un besoin superfétatoire, dit Arnaud Saint-Martin, qui est chercheur au CNRS.
Et il y a bien d'autres lieux touristiques que l'espace, la Champagne-Ardenne par exemple.
Bernard. Ah oui, ça hein, c'est vrai.
Donc nous en resterons là pour aujourd'hui. Au revoir à toutes et à toutes, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel. Peut-être depuis l'espace, qui sait.
Qui sait, Joël, au revoir.